CFM. CFM. À quel tour? 17h30, 19h. CFM.
À quel tour? Bonjour. Comme hier soir, nous prenons l'antenne pour une émission spéciale législative. Nous recevons vos candidats et cela se passe grâce à Kader You. Bonsoir Kader.
Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous et bienvenue pour ce second des quatre débats consacrés par CFM aux élections législatives des 11 et 18 juin prochains. Cinq candidats, quatre en tout cas en studio, nous attendons la cinquième, cinq candidats donc de la première circonscription aujourd'hui dans nos studios avec par ordre alphabétique Guillaume Arnaud, Europe Écologie Les Verts, Martine Baudos, Debout la France, Richard Blanco, Lutte Ouvrière, Sandy Rivière, Rassemblement Éco-Citoyen et qui n'est pas encore dans nos studios. Et enfin, Alexia Salgue, Union Populaire Républicaine. Bonjour à vous cinq et merci d'avoir accepté notre invitation à débattre dans la clarté, le respect et la courtoisie, nous l'espérons. Alors, avant de rentrer dans le cœur du débat, je vais vous demander de vous présenter et de nous dire ce qui vous a poussé à partir de cette bataille politique. Pourquoi, finalement, vouloir devenir député de la France, l'ordre de passage étant celui alphabétique de votre nom, c'est à vous, Guillaume Arnaud, de débuter votre présentation. Vous avez une minute trente.
Donc, bonjour et merci déjà à CFM d'avoir pris l'initiative d'inviter tous les candidats, ce qui n'a pas été le cas de tous les médias. Donc je me présente, je suis Guillaume Arnaud, j'ai 34 ans, je suis père d'un jeune garçon qui a maintenant 8 mois. Je suis fonctionnaire territorial au conseil départemental de Tarn-et-Garonne, avec comme métier, je suis informaticien appliqué à la cartographie. Je me suis engagé chez Europe Écologie il y a 4 ans et je pense, parce que je pense que c'est le seul moyen de changer durablement les choses, en plus, on va dire, de mes engagements associatifs qui me permettent de mener des combats ou de porter des messages et, on va dire, de façon plus ponctuelle et de façon moins durable, parce que ce n'est pas inscrit dans la loi, malheureusement. Donc je me suis engagé pour ces législatives parce que malheureusement on n'a pas pu trouver d'accord avec les autres candidats de gauche, comme ça avait été le cas pour les présidentielles derrière Benoît Hamon, surtout quand le PS a renié totalement le nucléaire, etc., sur son programme pour les législatives. Donc voilà, et donc au suivant, merci.
Merci Guillaume Arnaud. Martine Baudon, c'est à vous de vous présenter.
Bonjour, je remercie également CFM de respecter la parité et surtout le temps de parole. Et bonjour à vous tous. Je me nomme Martine Baudos, je suis fille de militaire, 65 ans, retraitée de la fonction publique en tant que justice. En tant que juriste, pardon. J'ai travaillé essentiellement à aider les personnes en difficulté avec l'administration et dans leur vie. Au cours de mon activité professionnelle, j'ai rencontré donc Nicolas Dupont-Aignan il y a maintenant à peu près une quinzaine d'années. Son implication dans mon travail m'a permis de mener à bien bon nombre de mes dossiers difficiles. Cet homme de conviction, de parole, a donné un sens à mon travail. À la retraite, Nicolas m'a proposé le poste de secrétaire départemental pour représenter Debout la France, dans le Tarn-et-Garonne. Après réflexion, partageant les mêmes convictions gaullistes et les mêmes idées pour la France et ses citoyens, j'ai accepté ce poste avec plaisir.
Merci Martine Baudos. Donc c'était à Sandy Rivière, mais Sandy Rivière n'étant pas là, enfin pas encore là en tout cas. Je vous donne la parole à Alexa Salle, que pouvez-vous vous présenter
Eh bien bonjour à tous et puis merci effectivement de cette invitation. Donc je suis professeure des écoles, j'ai 46 ans. Je me suis toujours intéressée donc à la politique, mais je me posais beaucoup de questions, beaucoup de pourquoi, je ne comprenais pas toujours très bien ce qui se passait et pendant un moment j'ai été quand même assez déçue de ce qui se passait, donc je me suis mis un petit peu en retrait, faisais partie des abstentionnistes. Et grâce à l'UPR, que j'ai découvert il y a 2 ans, tout à fait par hasard, en cherchant des choses sur Internet, parce que moi je suis profondément attachée à la démocratie, et que je me disais que je me réintéresserais à la politique le jour où le vote blanc serait enfin reconnu. Voilà, parce qu'il me semble qu'il vaut mieux voter blanc que de s'abstenir. Bon, voilà. Et donc, j'ai découvert l'UPR et qui m'a donc intéressé puisqu'il proposait cette mesure, hein, donc la reconnaissance pleine et entière du vote blanc révocatoire, ainsi que l'initiative, les référendums d'initiative populaire. Et donc de là, j'ai adhéré pour la première fois de ma vie à un parti politique. Et aujourd'hui, eh bien, je me présente aux législatives parce que pour moi, le pluralisme politique est important. C'est inscrit dans la Constitution française. Le débat pour qu'il y ait débat. Et donc voilà, j'ai envie de m'engager et faire découvrir ces les analyses de l'UPR qui ne sont pour l'instant pas tellement connues.
Écoutez, voilà. Vous allez en tout cas les développer pendant cette heure et demie d'émission. C'est à vous, Richard Blanco, pour l'Outre-Bruyère, de vous présenter.
Tout d'abord, bonjour.
Bonjour.
Donc, je suis Richard Blanco, donc j'ai 46 ans. Je travaille au service renseignement droit du travail du Tarn-et-Garonne, à Montauban, où je réside. Donc je suis militant syndicaliste et aussi, et surtout, militant communiste révolutionnaire. Je suis à Lutte Ouvrière depuis plus de 25 ans et je vais dans ces élections, comme l'a fait Nathalie Arthaud lors des élections présidentielles, faire entendre le camp des travailleurs. C'est-à-dire exprimer les exigences vitales du monde du travail, celles des chômeurs, des retraités, des travailleurs qui soient du public ou du privé, et quelle que soit leur catégorie sociale. Alors que nous avons des intérêts communs qui sont opposés à ceux de la classe capitaliste qui dirige la société, à savoir les familles de la grande bourgeoisie, les Bettencourt, les Muliez, les Arnaud, les Bolloré, les Peugeot. Nos vies, nos emplois, nos salaires, nos pensions doivent passer avant leurs profits. Nos exigences, c'est interdire les licenciements, à répartir le travail entre tous, pas un salaire, une pension en deçà de 1800 euros et aussi faire lever le secret des affaires.
Merci, Richard Blanco. Donc, dans un peu plus d'une semaine, le président de la République, nouvellement élu, sera fixé sur les contours de sa majorité et les marges de manœuvre dont il disposera pour réformer, pour appliquer son programme. À l'Élysée, bien sûr, on espère que celle-ci, majorité, si majorité il y a, sera la plus large possible à l'issue des élections législatives des 11 et 18 juin prochains. Jusqu'à présent, les sondages donnent à Emmanuel Macron des scénarios assez favorables, soit une majorité absolue pour La République en Marche, dont les candidats sont d'ailleurs arrivés largement en tête dans les 10 des 11 circonscriptions des Français de l'étranger qui ont voté une semaine avant l'Hexagone. Je vais vous poser la question sur ces sondages, en tout cas qui placent La République en Marche en tête des intentions de vote. Comment, si vous êtes élu, travaillerez-vous avec le gouvernement d'Édouard Philippe, pardon, serez-vous dans une opposition constructive ou bien au contraire réfractaire à tout compromis? Avant de répondre à cette question, mesdames et messieurs, Sandy Rivière vient d'entrer dans le studio. Bonjour, madame Rivière. Je vais vous demander de vous présenter vos quatre autres collègues candidats à la députation. Dans le Tarn-et-Garonne, on se sont présentés. Je vais vous demander si vous voulez bien de vous présenter aux auditeurs. Voilà, Sandy Rivière, bonsoir.
Bonsoir.
Je vous écoute. Madame Rivière, oui. Vous voulez qu'on fasse la présentation plus tard?
Oui.
Alors, écoutez, Guillaume Arnaud, je vous pose la question. Donc, si vous êtes élu, travaillerez-vous dans une position constructive ou bien vous serez réfractaire à tout compromis avec le gouvernement d'Edouard Philippe?
Alors, Guillaume Arnaud. De notre côté, il va sans dire que nous ne serons pas, on va dire, d'accord avec toutes les mesures de ce gouvernement. Loin de là, en particulier, par exemple, sur la loi travail qui a l'air d'être aux antipodes de ce que nous souhaitons pour les personnes qui travaillent, les employés de ce pays.
La loi travail, celle qui est votée
La loi travail, là, qui est en projet actuellement, mais même déjà celle qui a été votée actuellement. Ensuite, ce qu'il y a, c'est que au gouvernement, on a eu quelques surprises lorsque le gouvernement a été présenté. Nicolas Hulot a hérité du ministère de l'écologie, et je pense que c'est quand même un signe que il est ministre d'État et que l'écologie, même pour quelqu'un qui en est très loin comme Monsieur Macron, est quelque chose de très important. Et il faut donner un peu de pouvoir à Monsieur Hulot, parce que si il n'y a aucun député écologiste demain à l'Assemblée, eh ben malheureusement, lui n'y sera pas très longtemps non plus, je pense. Donc c'est pour ça que, comme Europe Écologie l'a toujours fait, on a toujours travaillé dans des exécutifs, c'est quelque chose que nous revendiquons. Nous sommes dans l'exécutif au niveau de la région, avec le PS, et tout ça pour essayer de faire avancer nos idées, même si, on va dire, malheureusement, on n'est pas majoritaire et on ne peut pas avoir raison sur tout.
Merci. Martine Baudot, sur la même question.
Alors la même question, bon, moi je pense que si le gouvernement actuel a une majorité, il obtiendra la possibilité de gouverner sans par ordonnance, ce qui ne donnera pas du tout la parole à qui que ce soit. Et surtout, dans ce cas-là, les députés n'ont lieu ni d'être avec lui et contre lui. À partir du moment où il aura la majorité, il pourra faire ce qu'il veut. Soit il n'a pas la majorité, et là, en fonction de ce que l'on connaît de son programme, pour notre part, aujourd'hui, il est peu probable qu'on travaillera avec lui. En sachant que néanmoins, certaines propositions de loi iraient dans l'intérêt de la France. Si ça va dans l'intérêt de la France et du citoyen, pourquoi pas? On peut très bien revoir et puis redécider. Par exemple, il y a des points où on ne serait pas d'accord, c'est la revalorisation des minima sociaux, le dégel des pensions de retraite, et puis surtout, et ça c'était le cheval de bataille de Nicolas, le contrôle des frontières. Il faut surtout faire attention à ça. Donc après, dire que je suis d'accord actuellement avec son programme, s'il y a programme, parce qu'en fin de compte, durant sa campagne, il n'a pas du tout développé son programme à fond, je ne travaillerai pas avec lui à l'heure actuelle.
Alexa Salg.
Oui, alors nous, beaucoup de choses nous opposent, effectivement, avec le gouvernement, s'il se confirme, effectivement, avec cette majorité, je ferai la même remarque. Tout nous oppose, nous, on veut sortir de l'Union européenne, de l'euro et donc de l'OTAN. Donc on s'oppose vraiment à cette politique mondialiste ultra-libérale qui fait beaucoup de dégâts, hein, et en particulier les plus démunis qui en premier en pâtissent. De toute façon, ce sera sur une force d'opposition clairement.
Il n'y a pas des axes du projet d'Emmanuel Macron sur lesquels vous pourriez vous ranger à l'UPR?
Je n'en vois pas vraiment là.
Opposition, rêve actuel. Richard Blanco, j'ose vous poser cette même question. Est-ce que vous serez dans une opposition constructive?
Non, on sera pas dans une opposition constructive. Parce que la priorité pour le monde du travail, c'est de se préparer, hein, à répondre collectivement aux coûts, hein, littéralement, que nous assène le grand patronat. Et bien évidemment, hein, que dans ce cadre, nous aurons contre nous le gouvernement en place qui souhaite effectivement être renforcé au terme des futures élections. Hein, et vous l'avez dit, il semblerait que ce soit un peu l'état de grâce pour Monsieur Macron et qu'il y a une forte probabilité qu'il ait une chambre toute dévouée à sa personne. Et ce gouvernement, déjà, on peut constater qu'il est déjà en ordre de marche. Hein, il essaye, tant bien que mal, hein, de nous cacher ses mauvais coups. Mais aussi vite les urnes seront rentrées, on est sûr en tout cas d'une chose, c'est qu'ils vont venir. Car c'est tout simplement répondre à la volonté du grand patronat. Alors ce qui change par rapport au président précédent, c'est qu'au lieu que les coups provenaient auparavant de la droite puis de la gauche gouvernementale, avec Macron, ils vont venir des deux côtés. Alors la priorité, c'est effectivement de se regrouper, de prendre conscience que peu importe la couleur de la nouvelle Assemblée, il est nécessaire de préparer la riposte du monde du travail. Que cette chambre de députés, qu'elle soit remplie de macronistes, nous enlèvera pas la capacité de répondre aux attaques de ce gouvernement. Nous faisons tout tourner dans cette société, les travailleurs. Et les travailleurs doivent prendre conscience de leurs forces. Et dans ces futures luttes, il faudra que l'on impose nos exigences vitales qui, je le répète, sont un emploi et des salaires et des pensions qui nous permettent de vivre.
Merci, Richard Blanco. Alors, Cindy Rivière qui est arrivée un tout petit peu en retard. Donc, bonsoir, Madame Rivière. Bonsoir. Vous représentez le mouvement du Rassemblement éco-citoyen. Je vais vous demander, comme l'ont fait vos collègues, de vous présenter, de nous dire en quelques mots qui vous êtes, ce que vous représentez et pourquoi vous vous présentez donc à la députation.
Je représente le Rassemblement éco-citoyen et la France a des ailes, E2LES. C'est le seul mouvement féministe nationale en politique. Je suis née en Gascogne et je travaille sur le département avec le bleu de pastel d'Occitanie, dont la créatrice, le bleu de Lectoure, est une amie.
Alors pourquoi vouloir devenir députée justement ? Écoutez, Madame Rivière, je vous propose de marquer une courte page de publicité et on se retrouve tout de suite après pour passer donc au second sujet de notre émission.
CFM à Montauban. 101.2. Samedi 10 juin, Festival Glass, 4e édition. Dès 19h, 5 groupes. Noir Désir by Le 4 Noir. Téléphone by Interphone, Alchimie Original French Metal, Motorhead by les Italiennes Queen and Ace et Metallica by Some Kind of Monster. Que du bon et grande soirée en perspective le 10 juin pour le Festival Glass. Buvette et restauration sur place. Tout est prévu car rien n'arrête le rock. Organisé par Sonar Events, itinéraire fléché, entrée 5 euros et parking sur place.
L'association Moissac Culture Vibration présente le 21e Festival des Voix du 15 au 25 juin. Retrouvez des artistes prestigieux au cœur du patrimoine de Moissac et des 11 communes qui y participent avec Calypso Rose, Noah, Douline, Lucar Bogast et aussi Barbara Fortuna ou encore New Gospel Family. Une trentaine d'artistes à Moissac, Boudou, Durfort, Lisac, Puis Cornet et La Française. Pensez à réserver vos places pour le 21e Festival des Voix, des Lieux, des Mondes du 15 au 25 juin à Moissac. Infos et réservations sur moissac-culture.fr.
Hey, je viens de voir les voisins, ils sont comblés.
Comment ça, comblés ?
Eh bien, avec une simple pièce d'un euro, ils ont récupéré une pièce à vivre en isolant leur comble.
Une pièce d'un euro pour une nouvelle pièce à vivre ? C'est cadeau !
Grâce au programme Solidarité énergétique pour la rénovation, une pièce de 1 euro vous suffira pour isoler vos combles. Rien d'autre à payer. 33 cm d'épaisseur de laine de verre, iso-vert, sans aucune limite de surface et jusqu'à 30% d'économie d'énergie. Tarn-et-Garonne Isolation, une entreprise familiale certifiée RGE Calibat, ZA de la Mouscane à Montèche.
Une prime d'achat de 200 euros pour l'achat d'un vélo électrique neuf, ça c'est une aubaine. Chez A Loisirs, venez découvrir une grande sélection de vélos, des électriques, des vélos de route, des VTT ou VTC. Un grand choix vous est proposé, neuf ou d'occasion, en vente ou en location. Eric et Sylvain vous accueilleront avec plaisir. A Loisirs, le vélo plaisir. Société A Loisirs, 3130 route du Nord à Montauban. Plus d'infos sur aloisirs.fr.
CFM à Moissac, 90.7.
Oui, retour donc sur ce débat consacré aux élections législatives des 11 et 18 juin prochains. 5 candidats qui sont ici dans le studio de CFM Radio pour nous exposer leurs projets, pourquoi ils souhaitent devenir députés et représenter la nation. Le scrutin très important en tout cas pour la France et c'est celui qui va dessiner finalement le visage de notre pays pour les 5 prochaines années et qui va déterminer aussi la politique qui sera mise en œuvre. Alors les Français et la politique, c'est un vaste sujet, un sujet que nous avons souhaité évoquer avec vous, la méfiance des Français à l'égard des hommes politiques, de nos institutions qui grandit chaque jour davantage avec des effets désastreux, abstention qui augmente et le vote qui devient de plus en plus une sanction plutôt qu'une réelle adhésion à une vision de la société, à des projets ou à un programme. Le citoyen a-t-il tort ? Le citoyen constate en tout cas une sorte de déconnexion de nos élites, une démocratie à bout de souffle. Et pourtant, les Français sont intéressés par la chose publique et le débat d'idées. L'abstentionnisme n'en est que plus désolant. Doit-on aller plus loin que le système représentatif actuel ? Est-il lui aussi à bout de souffle ? Intégrer pleinement des citoyens aux prises de décision ? La prise en compte des votes blancs, vous l'avez exprimé à Madame Salgue, qui annule une élection passée un certain seuil. Que pensez-vous, en tant que député, pouvoir apporter à la politique française pour améliorer le sentiment de confiance des Français à son encontre? Qu'apportera votre parti politique de nouveau par rapport à ce qui s'est fait jusqu'à présent? Je vous donne la parole à vous, Martine Baudos.
Mais écoutez, moi je pense que au niveau des citoyens et du pouvoir politique, qu'il faut, enfin, personnellement, je pense, en tant que députée, il faudrait assurer une permanence dans les cantons. Parce qu'il faudrait pouvoir leur donner, répondre aux interrogations qu'ils ont, auxquelles on ne les questionne jamais. Et surtout leurs besoins aussi. Il faudra les tenir au courant et je pense faire une permanence ou ouvrir des bureaux ou les tenir informés des lois en cours et celles qui sont en préparation. Il faudra aussi leur demander leur avis sur ces différents projets que l'on va porter à l'Assemblée.
Ça sous-entend des référendums, un peu comme si ce se faisait
en Suisse. Pas référendum, mais ouvrir la possibilité du questionnement. Mmh. C'est-à-dire que donner la possibilité qu'ils puissent s'approcher des députés pour pouvoir poser des questions en direct. Et éventuellement, donc, leur donner donc les différents projets de loi et quelles lois, eux, ils souhaiteraient pour voir abroger ou modifier, avoir leur avis. Parce qu'en fin de compte, les députés travaillent seuls dans leur coin, ne demandent pas l'avis des citoyens, et je pense que c'est quand même eux, quelque part, qui sont nos patrons. Donc il faut quand même donner leur avis, demander leur avis.
Guillaume Arnaud, sur cette même question.
Alors, nous, de notre côté, nous avons toujours porté des mesures, on va dire, que maintenant beaucoup portent, mais on a été initiateur à Europe Écologie sur ça, je pense. C'est sur la fin du cumul des mandats dans le temps et les sanctions. Pour promouvoir un renouvellement qui fait que devenir politique n'est plus un métier. Après, nous souhaitons une 6e République à la proportionnelle pour que chacun puisse être représenté parce que malheureusement on manque de représentativité et on le verra très bien au soir des législatives du 18 juin. Si le parti de Monsieur Macron fait 25%, il aura pourtant une majorité absolue. Et vraiment, quand je dis absolue, c'est un faible mot. Et ce qui est insensé par rapport aux 25% de personnes qu'il représentera. Et en plus, ça permettra aussi aux gens de voter pour leur idée, parce qu'on entraîne trop souvent maintenant le vote utile, etc. Ce vote utile, c'est bien joli, mais ça aussi, ça détourne les gens de la politique, parce que qu'est-ce qu'un vote utile, sinon celui pour ses idées? Je finirai sur deux choses.
Oui, oui.
Un des moyens aussi de remettre confiance en la politique, c'est de faire attention à la fiscalité, parce que les gens, un des premiers impacts qu'ils ont, c'est la fiscalité qui pèse sur eux, dont la fiscalité locale, et finalement c'est celle qui est la plus traçable. Telle commune m'impose tant et je reçois tant en service. Et quand Monsieur Macron choisit de supprimer les taxes locales, et ben finalement c'est un outil pour les communes de moins pour faire de la politique au niveau local, à un niveau où la population peut se rendre compte de ce qu'apporte réellement le politique. Voilà. Et donc c'est une des choses, par exemple en fiscalité locale, ça serait de donner une fiscalité directe à la région pour qu'elle puisse avoir un bras de levier pour mener des politiques, et en particulier sur l'emploi, qui est une de ses prérogatives principales.
Richard Blanco, c'est à vous.
Alors vous savez, le pouvoir politique, au final, il n'est pas plus dans les mains des futurs députés de l'Assemblée nationale qu'il ne l'est dans celle de Macron et de son gouvernement. Le vrai pouvoir, il est économique. C'est le fait que ce sont les grandes familles capitalistes, j'en ai cité quelques-unes en introduction, hein, les familles, parce qu'elles ont bien des noms, hein, ces gens-là, hein, c'est la famille Peugeot, Bolloré, Arnaud, Bettencourt. Mais toutes ces grandes familles, c'est elles qui décident de notre sort. C'est elles qui décident d'investir ou pas leurs capitaux dans telle ou telle activité. C'est elles qui décident de comment on va produire telle ou telle richesse, que ce soit un produit ou un service. Ce sont eux qui détiennent le pouvoir. Mais ceux-là, ils ne sont jamais élus. Oui, le grand patronat exerce une dictature sur la société. Alors, faire de la politique, c'est déjà prendre conscience de cela. Et c'est aussi être conscient que collectivement, nous représentons une force sociale et que sans notre travail, plus rien ne fonctionne. Faire de la politique, c'est contester le pouvoir du capital sur nos vies. Et cela passe par des mesures telles que le contrôle par les travailleurs des entreprises. Et alors, je citerai qu'un exemple. C'est qui avait été cité notamment par Nathalie Arthaud lors des élections, c'est celui de la BNP. Hein, une entreprise comme la BNP, elle dégage 7,7 milliards de bénéfices. Et parallèlement, elle annonce 700 suppressions d'emplois. Vous savez ce que ça représente par rapport à ses bénéfices? Ça représente même pas 0,5% des bénéfices. Donc maintenir ses emplois, c'est tout à fait possible. Mais ça nécessiterait d'intervenir collectivement et d'exiger qu'on les maintienne. Et ces emplois, on en a besoin. On en a besoin, et notamment les jeunes.
On va y revenir sur l'emploi. Sur les citoyens et le pouvoir politique, Madame Salgue, on vous a entendu, je vous donne la parole.
Oui, donc... J'aimerais que les Français reprennent confiance en la politique. France rime avec confiance. Il faut, je pense que c'est important qu'ils retrouvent le goût de la politique, du bien commun, de la chose publique. Moi, je trouve que le taux d'abstention c'est alarmant, c'est dommage. Donc, effectivement, avec le vote blanc, les référendums d'initiative populaire, c'est donner la parole aux citoyens. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple, hein. Donc la moralisation effectivement aussi de la vie politique. On m'a demandé mon casier judiciaire vierge pour investir pour ma candidature. Donc on me le demande aussi pour ma profession. Je vois pas pourquoi ce serait pas de fait pour les personnes qui nous gouvernent. Réforme également le statut de l'élu. Donc l'interdiction du cumul des mandats, et puis aussi la mise en place d'un quorum d'au moins 60% à l'Assemblée nationale, parce qu'il est quand même pas normal que des lois soient votées dans une assemblée à moitié vide. Donc voilà.
Ok. Très bien.
Et puis informer effectivement de tout ce qui se passe, tous les projets législatifs, informer le citoyen bien entendu.
Sandy Rivière, pour le Rassemblement des Concitoyens, sur cette même thématique, les Français, la politique.
Les citoyens, c'est 0% politiciens et 100% citoyens. C'est le slogan que j'ai choisi. Il faut que les gens comme vous, comme moi, à l'Assemblée nationale, renouveler la démocratie, défendre la France des campagnes, préserver le devenir des générations futures. Alors, renouveler la démocratie, 0% politiciens, 100% citoyens, pour que le socle féministe et citoyen soit représenté à l'Assemblée nationale. Je suis la seule représentante politique de ces femmes qui veulent un changement de société. Génération future, la priorité numéro un pour moi, éco-citoyenne, l'environnement, je suis prête à travailler avec le gouvernement si des Nicolas Hulot portent encore un nouveau modèle de société.
Bien. Merci Sandy Rivière. L'emploi et l'économie, ce sera notre prochain thème que je propose d'aborder après les informations. Flash Info de 18h sur CFM Radio.
CFM.
Après les infos, retrouvez À qui le tour avec votre épicerie Coxibio à Haussonne-Montauban. Coxibio, proche du bio, proche de vous.
Infos, CFM, les infos.
Bonsoir à tous. C'est confirmé, le Français porté disparu a trouvé la mort finalement dans l'attaque terroriste de Londres samedi soir. Et il s'agit bien de Xavier Thomas, 45 ans, père de famille, est formellement identifié par la police britannique. Son corps a été repêché dans la Tamise. Il devient la 8e personne décédée dans cet attentat et le 3e Français après Alexandre Pijard, 27 ans, et Sébastien Bélanger, 36 ans. Londres, Paris ou Manchester, autant de villes marquées par le terrorisme. Ce soir, c'est en toute sobriété que la pop star Ariana Grande vient se produire à l'Accor Hotel Arena, un concert sous haute sécurité à Paris. 20 000 personnes sont attendues. Et ce concert un peu particulier se déroule au lendemain de l'attaque du parvis Notre-Dame. Hier à Paris, les policiers ont découvert au domicile de l'assaillant à Cergy-Pontoise une vidéo dans laquelle il prête allégeance au groupe djihadiste État islamique. Le suspect hospitalisé en état d'urgence absolue est en garde à vue. Le policier agressé à coups de marteau, lui, a été légèrement blessé. Un double attentat revendiqué par Daesh à Téhéran aujourd'hui. Des hommes armés et des kamikazes ont pris pris d'assaut le Parlement et le mausolée de Khomeini en Iran. Bilan, 12 morts et au moins 39 blessés. Dans l'actualité, également ce soir, Édouard Philippe qui le clame aujourd'hui en une du Parisien. Il veut une majorité stable et puissante. À 4 jours des législatives, les sondages vont dans son sens. D'après la dernière enquête Odoxa, le gouvernement d'Emmanuel Macron disposerait d'une majorité absolue entre 350 et 390 sièges à l'Assemblée nationale. À noter que le Front National a qualifié aujourd'hui de très grave problème démocratique la possibilité de ne pas avoir les 15 députés nécessaires pour former un groupe à l'Assemblée, tandis que Nicolas Dupont-Aignan a exclu de siéger justement dans un groupe commun avec le FN. À Roland-Garros, ça c'est fini pour Caroline Garcia. La Française a perdu en 2-7 face à la Tchèque Pliskova, numéro 3 mondial, 7-6, 6-4. Et c'est fini aussi pour Novak Djokovic, éliminé par le jeune Autrichien Dominic Thiem, 23 ans, et qui affrontera au prochain tour Rafael Nadal, qualifié lui aussi pour les demi-finales. Voilà pour l'essentiel. Très bonne fin de journée.
CFM.
Nord-Midi-Pyrénées.
Nord-Midi-Pyrénées.
L'esprit rock.
Émission spéciale législative 2017 et ça se passe avec Kader Youb.
Oui, Aurélien, et avec surtout Guillaume Arnaud, Europe Écologie Les Verts, Martine Baudos, Debout la France, Richard Blanco pour Lutte Ouvrière, Sandy Rivière, Rassemblement Éco-Citoyen et enfin Alexia Selgue de l'Union Populaire Républicaine. Je vous propose, mesdames et messieurs, de passer au chapitre thématique emploi et économie. Nous avons eu, en tout cas, les premières annonces sur la réforme du droit du travail, réforme de l'allocation chômage, etc. Plusieurs pans entiers de l'économie et du travail qui vont être réformés, en tout cas, au Parlement. Je vous donne la parole, Richard Blanco, sur le travail. Vous, député, que mettriez-vous en place pour faire en sorte que l'emploi... la situation, en tout cas, de l'emploi progresse dans notre département, en France.
D'abord, la probabilité que je sois député est quand même légère, hein, mais en tous les cas...
Vous êtes candidat.
Dans le cadre de ces élections, on est là pour exprimer donc des idées, et notamment...
C'est-à-dire que vous vous présentez en étant absolument certain de ne pas être élu, Monsieur Blanco?
Non, je ne serai pas élu, mais en gros, c'est même pas un problème en tant que tel. Hein. C'est-à-dire D'accord. que là, nous, on se présente pour exprimer un certain nombre d'idées. Et notamment pour permettre et puis dire que, oui, les élections, c'est un cirque électoral. Hein, que c'est un enfumage et que concernant l'emploi... Hein, puisque c'est votre question, effectivement, oui, l'emploi et l'économie, hein, liée, adossée à l'économie, oui. Nous, ce qu'on constate, hein, depuis des années, hein, moi, je suis né en 1971, hein, donc, depuis que je me suis éveillé à la politique, aux idées politiques, ben, on ne cesse d'entendre toujours, hein, les mêmes idées, c'est-à-dire que nos emplois, hein, sont conditionnés à la bonne santé des entreprises. Hein, c'est-à-dire, en gros, que quand c'est bon pour les entreprises, ben c'est bon pour nous, pour les travailleurs. Et depuis hein, la crise économique des années 70, ben les gouvernements de droite comme de gauche, ben ils mènent la même politique qui se résume à soutenir les entreprises, les grandes, hein, les très grandes entreprises, alors en nous faisant pleurer hein, vis-à-vis des petites, des artisans, des commerçants, mais au final, ce qui rafle la mise, c'est les très grandes entreprises. Eh bien, tout ça pour nous dire que oui, ça, c'est les bonnes solutions. Et ça fait 40 ans que ça dure. Ça fait 40 ans que l'on nous fait toujours le coup de toujours plus d'aides financières pour les patrons, toujours plus d'exonérations sociales, d'exonérations fiscales. Et au final, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate que le chômage, il ne cesse d'augmenter.
Alors, quelles sont vos propositions?
Alors, nos propositions, c'est celles qu'avait défendu Nathalie Arthaud dans ses élections, c'est qu'il faut... Avant tout, eh bien, mettre fin aux hémorragies d'emploi. C'est-à-dire qu'il faut interdire les licenciements et répartir le travail entre tous. Hein, et cela, ces mesures-là, par rapport à l'emploi, elles sont de bon sens. J'ai pris l'exemple de la BNP.
Diminuer le temps de travail.
Hein, en diminuant effectivement le temps de travail, on répartit le travail entre tous. Et donc, l'exemple que j'ai pris de la BNP, il est quand même criant. Je veux dire, ça ne lui coûterait que 0,4% de ses bénéfices que de maintenir 700 emplois. Et ces exemples-là, on peut les multiplier à tout un tas d'entreprises. Oui, il y a les moyens. Et même quand on nous dit que les entreprises sont en difficulté, eh bien, il faudrait vérifier. Et nous, on est pour lever tous les secrets dans les entreprises pour qu'on voit exactement si l'argent n'existe pas. Et on se rendrait bien compte que oui, les milliards, ils existent. Et concernant les milliards, le gouvernement, il en finit pas d'aider les entreprises. Le CICE, excusez-moi, pour parler des milliards et des moyens, c'est les entreprises du CAC 40 les plus importantes qui font cette année, qui ont fait plus de 70 milliards de bénéfices. On pourrait créer avec cela 2 millions d'emplois à 1800 euros net. Donc les moyens, ils existent, c'est la volonté. Et nous, on est quasiment sûr que n'importe quelle chambre de députés, elle ne fera rien pour cela. Parce qu'on est dans une société où c'est la classe capitaliste qui domine. Et donc les travailleurs, pour changer ce rapport de force, ils n'ont qu'une possibilité, ben c'est d'utiliser leurs moyens, les grèves, les manifestations. Et ainsi, on pourrait enfin avoir tous un emploi et un salaire digne pour pouvoir vivre.
Guillaume Ardon.
Oui, donc tout d'abord, quand j'entends Monsieur Blanco dire qu'il n'a aucune chance, pour ma part, j'espère en me présentant que je peux convaincre des gens, après peut-être pas une majorité, mais peut-être, on va dire, en plus avec cette antenne, avoir peut-être une triangulaire ou quelque chose comme ça qui me permette après de continuer à avoir les moyens de présenter mes idées, parce que il faut pas oublier que Benoît Hamon a fait 6% et que le PS a totalement jeté ses idées, et que donc c'est 6%, je m'en sens légitimement le représentant. La France insoumise, il y a eu un certain vote utile. Nous savons aussi que nous portons beaucoup de leurs idées, avec en plus une forte appétence à l'Europe, et donc ce qui fait que des gens aussi peuvent se retrouver sur ces idées, et c'est pour ça que je pense qu'il faut pas non plus dire que nous n'avons aucune chance, sinon ça ne servirait à rien d'être là. Pour ce qui est du travail, comme Benoît Hamon l'avait défendu dans son programme, il faut surtout que le chômage ne devienne pas une fatalité. Et pour cela, il avait proposé le revenu universel que nous portons depuis très longtemps, qui a été pas forcément très bien expliqué, mais qui fait que ce statut de chômeur ou de sans-emploi ne soit plus une fatalité dans l'avenir, parce que il faut pas se mentir, même des grands entrepreneurs, entre guillemets, de ce monde, c'est des patrons de Facebook, etc., sont d'accord avec ce genre d'idée, et qu'il faudra un moment trouver un moyen de donner à chacun de vivre, les moyens de vivre, parce que nous sommes quand même un pays riche, et qu'il est totalement anormal actuellement qu'il y ait des gens qui puissent vivre sous le seuil de pauvreté. Donc aussi, il faudra penser à repartager le temps de travail. Ça aussi, c'est le programme d'Europe Écologie Les Verts. Nous sommes pour une semaine à 32 heures sur 4 jours, qui dégagerait du temps pour vivre aux citoyens, et aussi qui permettrait de partager plus efficacement le travail. Enfin, aussi, nous, on porte comme projet, bien sûr, la transition écologique. Et la transition écologique, on n'est pas sans savoir que c'est porteur d'emploi. Sauf que dans l'emploi, juste, c'est vraiment quelque chose qui est très important, parce que avec la rénovation thermique du logement, des nouveaux emplois aussi, comme le démantèlement de centrales nucléaires, etc., c'est des emplois, on va dire, qui sont à créer pour demain, et voilà. Donc.
Merci Guillaume Arnaud. C'est à Martine Baudos de s'exprimer sur ce sujet.
Repartir sur pas mal d'explications, mais je vais répondre directement sur l'emploi et l'économie. Il faut rappeler quand même qu'il y a quand même la suppression de la directive des travailleurs détachés. Je pense déjà que si nous nous confortons et nous nous appuyons sur ce problème, je pense que déjà nous dégagerons quand même certains emplois. Ensuite, je pense qu'il faut, pour pouvoir trouver de l'emploi et avoir de l'emploi, aider les TPE et les PME. Réinvestissent en France, donc par la réduction de l'impôt, et à contrario aussi augmenter les taxes des entreprises, donc des grandes entreprises qui vont produire hors de nos frontières. Et puis aussi une chose aussi, pensez aux artisans, aux commerçants et aux professions libérales qui, quoi que l'on en dise, donnent du travail et même cherchent, si vous écoutez la radio, la télévision, cherchent des ouvriers, cherchent des personnes pour pouvoir continuer leur travail. Et si déjà on supprime le RSI pour ces personnes, les artisans, les commerçants et les professions libérales, en leur permettant de rejoindre le système qui est actuel, le système général, je pense que on dégagera déjà pas mal de taxes que le RSI leur donne. Et puis aussi une chose, aussi quelque part, c'est favoriser l'apprentissage avec une implication de l'État. Parce que l'apprentissage, il n'est pas contrôlé. Rien n'est contrôlé et il n'est pas financé. Donc il est certain que ça freine quand même pas mal d'entreprises. Et puis aussi, recadrer la formation professionnelle adulte et la permettre tout au long de sa carrière, c'est-à-dire qu'une fois que l'on est en place, permettre à l'ouvrier ou à l'employé de pouvoir progresser dans sa carrière. Et en plus, et enfin pour moi, le contrôle des organismes de formation professionnelle pour adultes. Il faut savoir qu'il y a des sommes phénoménales qui sont dépensées et qui n'ont aucune obligation de résultat. Donc je pense déjà que si on se met sur ce projet-là, déjà aider les entreprises, les artisans et revaloriser les apprentissages, je pense que déjà nous ouvrirons la porte à des emplois.
Alex Salg.
Oui, pas mal de points de convergence avec ce qui vient d'être dit. Effectivement, nous c'est plutôt, déjà arrêter l'hémorragie de l'industrie, de notre industrie, hein, de toutes ces délocalisations. Voilà, parce que c'est une entreprise par jour, je crois, qui ferme ou qui délocalise. C'est juste dramatique, hein, ça devient la peau de chagrin, l'industrie en France. Donc, et évidemment, tous les emplois qui est autour. C'est également arrêter les cadeaux toujours aux plus riches, mais justement aider les petites entreprises, les TPE, pardon, TPE, PME. Donc, par exemple, en créant un fonds de garantie pour les prêts bancaires aux plus petites entreprises. Parce que c'est vrai que l'artisanat, c'est quand même le premier employeur de France, hein, 80%. Et donc également favoriser tout ce qui concerne la formation et l'apprentissage, que ce soit un petit peu mieux organisé, voilà. Nous aussi, quelque chose qui nous alarme beaucoup, et en particulier dans un département comme le Tarn-et-Garonne, c'est l'agriculture. Donc nous voulons favoriser et développer une agriculture familiale, hein, contre l'agro-business et ces grosses entreprises de productivistes, hein, oui. que le sens de l'agriculture retrouve son sens premier, c'est-à-dire nourrir et non pas produire jusqu'à en faire du gâchis, ce qui est complètement aberrant, même en termes écologiques. C'est également relocaliser en France le plus grand nombre possible de commandes publiques. Nous voulons rehausser le SMIC, hein, de 15%, mais en aidant justement les petites entreprises. Nous, on veut aider les petites entreprises à embaucher et non pas les aider à licencier, comme c'est un peu le cas qui est en train de se passer aujourd'hui. Une loi qui permettrait de favoriser les TPE et PME dans l'obtention de marchés publics, dont je l'ai déjà dit, la revalorisation de l'apprentissage, et puis surtout, évidemment, retrouver le contrôle des mouvements de capitaux. C'est le seul moyen de reprendre le contact des délocalisations. L'abrogation des directives sur les travailleurs détachés. Et puis, éviter toute activité de lobbying et de trafic d'influence. Voilà. En gros, j'invite évidemment à aller consulter plus en détail sur upr.fr, le programme législatif qui présente près de 200 mesures. Voilà.
Sandrine Rivière, sur l'emploi, sur l'économie, est-ce que vous avez des propositions à formuler ?
Il faut que l'économie soit locale. Défense farouche des services publics sur le territoire. C'est à l'État d'aménager son territoire pour éviter les champs de ruines et de ronces. Défense des écoles, des trésoreries, des gendarmeries. Diminution, en revanche, de nombre de fonctionnaires encadrant, plus onéreux et moins prise directe avec le public.
Merci. Je vous propose de marquer une courte page de publicité pour souffler et nous allons entamer le chapitre environnement et développement durable.
CFM à Castelsarrasin. 90.7. 90.7.
Je viens de voir les voisins. Ils sont comblés.
Comment ça, comblés ?
Eh bien, avec une simple pièce d'un euro, ils ont récupéré une pièce à vivre en isolant leur comble.
Une pièce d'un euro pour une nouvelle pièce à vivre, c'est cadeau.
Grâce au programme Solidarité énergétique pour la rénovation, une pièce de 1 euro vous suffira pour isoler vos combles. Rien d'autre à payer. 33 cm d'épaisseur de laine de verre, iso-vert, sans aucune limite de surface et jusqu'à 30% d'économie d'énergie. Tarn-et-Garonne Isolation, une entreprise familiale certifiée RGE Calibat, ZA de la Mouscane à Montèche.
Samedi 10 juin, Festival Glace, 4e édition.
Dès 19h, 5 groupes. Noir Désir by Le 4 Noir. Téléphone by Interphone, Alchemy Original French Metal, Motorhead by les Italiennes Queen and Ace et Metallica by Some Kind of Monster. Que du bon et grande soirée en perspective le 10 juin pour le Festival Bias. Buvette et restauration sur place. Tout est prévu car rien n'arrête le rock. Organisé par Sonar Events, itinéraire fléché, entrée 5 euros et parking sur place.
L'association Moissac Culture Vibration présente le 21e Festival des Voix du 15 au 25 juin. Retrouvez des artistes prestigieux au cœur du patrimoine de Moissac et des 11 communes qui y participent, avec Calypso Rose, Noah, Douline, Lucar Bogast et aussi Barbara Fortuna ou encore New Gospel Family. Une trentaine d'artistes à Moissac, Boudou, Durfort, Lisac, Puy Cornet et La Française. Pensez à réserver vos places pour le 21e Festival des Voix, des Lieux, des Mondes du 15 au 25 juin à Moissac. Infos et réservations sur moissac-culture.fr.
Une prime d'achat de 200 euros pour l'achat d'un vélo électrique neuf, ça c'est une aubaine. Chez A Loisir, venez découvrir une grande sélection de vélos, des électriques, des vélos de route, des VTT ou VTC. Un grand choix vous est proposé, neuf ou d'occasion, en vente ou en location. Eric et Sylvain vous accueilleront avec plaisir. A Loisir, le vélo plaisir. Société A Loisir, 3130 Route du Nord à Montauban. Plus d'infos sur aloisir.fr.
CFM à Moissac, Moissac, 90.7, 90.7.
Retour sur le débat des législatives avec plusieurs candidats, Guillaume Arnoux, Richard Blanco, Sandy Rivière, Alexia Salgue et Martine Baudos. Nous allons passer sur le thème de l'environnement et de l'écologie. Une question toute simple que je vous pose, Sandy Rivière, tiens, que représente l'écologie dans votre démarche? Non, Sandy Rivière, vous n'avez pas le micro branché, on va vous poser la question à Alexia Salgue.
Alors, l'écologie, l'environnement, bah écoutez, c'est primordial, hein. Je pense qu'il faut quand même faire attention à ce qu'on va laisser à nos enfants, hein. Donc, et c'est, à mon sens, c'est d'abord une question de bon sens. Produire un maximum en local, retour à des circuits courts. C'est abandonner ces politiques productivistes qui épuisent la terre, qui polluent nos rivières, etc. Donc, nous voulons absolument développer l'agriculture familiale, hein, relocaliser les industries pour pouvoir produire localement, justement. Il paraît stupide d'aller acheter à 2000 km des choses que l'on peut produire chez nous. Donc, on réduit notre empreinte carbone de ce fait. En ayant une agriculture plus familiale, en développant le biologique, la permaculture, ben on évite d'utiliser tous ces produits, tous ces poisons, hein, qui polluent nos rivières. On connaît maintenant les conséquences de tout ce qui est perturbateurs endocriniens. Sont aussi des gros problèmes de santé, hein. Ça a des conséquences aussi sur la santé, sur nos enfants, etc. Donc voilà, c'est s'intéresser à la souffrance animale, justement, qui n'est que tous ces élevages en batterie, c'est complètement impossible. On peut plus accepter ça au jour d'aujourd'hui. C'est voilà.
C'est une des priorités de l'UPR, l'écologie.
La priorité, c'est l'indépendance nationale. Parce que d'accord, tant oui. qu'on n'a pas cette indépendance-là, il est quand même difficile ensuite d'appliquer. Mais ça fait partie effectivement quand même d'une des priorités quand même. Voilà. Donc il y a plusieurs mesures sur le programme législatif. Hein, j'invite les auditeurs à aller le consulter.
Votre site, c'est ça?
Voilà, sur le site.
Très bien. Martine Baudos.
Je rejoins un petit peu ce que vient de dire Alexia, et pour moi, en priorité, c'est quand même la pollution, parce que la pollution, c'est nous qui en sommes responsables. Et à mes yeux, il y a une très grande différence entre la pollution et le réchauffement, parce qu'on parle du réchauffement climatique, on veut nous culpabiliser, mais je pense que au niveau de la réchauffement climatique, la planète a subi la glaciation et le réchauffement bien avant que l'être humain ne colonise la Terre. Donc, de toute façon, je ne pense pas que tout ce qui est réchauffement, ce n'est pas nous. Par contre, la pollution, il est vrai. Il faudrait que les citoyens réapprennent un peu de civisme en respectant la nature et surtout au niveau de nos industries, respecter certaines chartes que quelques-unes, ici même dans le Tarn-et-Garonne, ne respectent pas. Donc il faudrait vraiment, surveiller ce genre d'entreprise et éviter que ces entreprises, en plus, il faut savoir que ces entreprises font un déplacement du territoire, c'est-à-dire que tout ce qui est produit ici est vendu ailleurs, alors que nous pourrions vivre, pas en autarcie, mais au moins vivre de nos produits du territoire.
Merci Martine Bodos. Richard Blanco, sur l'environnement et l'écologie, est-ce que c'est une des priorités de Lutte Ouvrière ?
Alors, l'environnement, c'est un sujet très sérieux, préoccupant, et c'est justement pour cela qu'il ne faut pas le laisser aux mains des capitalistes. Parce que quand on voit à quel point les droits des êtres humains sur cette planète ne sont pas respectés, qu'on voit la misère se développer, que des personnes n'ont pas de toit, ne peuvent pas se déplacer, se soigner, qu'on condamne des travailleurs à l'inactivité, que ceux qui ont un boulot sont parfois dans des conditions telles qu'ils sont en danger, victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, on peut se douter que la question de l'environnement de la planète pour un capitaliste se réduira au final à une question de marketing et de se donner bonne conscience. Et par exemple, un des plus grands pollueurs qui est Total, peut effectivement financer des films qui dénoncent les méfaits des entreprises polluantes sur l'environnement. Et je prendrai un exemple concernant l'environnement, c'est la catastrophe d'AZF à Toulouse. En 2001, l'entreprise elle a explosé en soufflant la moitié de Toulouse, tuant 32 travailleurs, handicapant à vie une partie de la population, créant des dégâts importants, traumatisant à jamais une partie des habitants. Eh bien, même si on a toutes les informations et qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est la gestion même de cette entreprise qui est la cause de l'explosion, eh bien, 16 ans après, appel après appel, Total n'a toujours pas été condamné et ne le sera certainement pas. Et aujourd'hui, on a même les représentants du groupe Total qui nous disent qu'ils ne comprennent toujours pas ce qui s'est passé. Vous vous rendez compte ? On confie à ces gens des entreprises dangereuses qui peuvent causer de tels dégâts. Ce qui est dangereux, ce n'est pas l'homme, mais bien un système capitaliste qui est animé que par une seule chose, c'est la recherche du profit. La première des choses qu'il faudrait faire, c'est les exproprier, ces capitalistes. Parce que on ne doit avoir aucune confiance envers ces gens-là.
Guillaume Arnaud, vous l'entendez, tous les partis, celui-ci présent, mais d'autres aussi, que nous avons reçus hier, ont aussi leur versant écologique. Est-ce que ça ne vous, finalement, handicape pas, vous, Europe Écologie Les Verts, le parti traditionnellement et historiquement dévoué à la cause écologique ?
Alors, si on a réussi, déjà, sur les 5 personnes autour de la table, j'ai le regret de reconnaître qu'il y a une climato-sceptique. C'est dans le monde dans lequel on vit, je trouve que quand même c'est regrettable vu le nombre d'études qui peut avoir été fait là-dessus. Donc vous voyez, on n'est déjà pas tous d'accord. Ensuite, je ne fais pas de la politique ou je ne m'engage pas dans le monde associatif pour que ce soit moi et moi seul qui représente ces idées. Si je convainc une autre personne et que cette autre personne c'est elle qui est élue et c'est elle qui fait voter les idées que je porte, eh bien, je m'en moque que ce soit moi qui soit au gouvernement, je m'en moque que ce soit mes partis qui développent ces idées. Au contraire, c'est une forme de victoire, et donc c'est aussi pour ça qu'il est bien qu'on en parle. Après, l'environnement, donc nous, bien sûr, c'est aussi un pan très très important de notre programme. C'est aussi une des raisons de mon engagement parce que, comme je le disais, je suis père depuis peu de temps, mais c'est toujours quelque chose que j'ai eu envie d'être et je n'ai pas envie de lui laisser des fardeaux et des dettes comme seule raison de vivre pour lui. Donc, parmi ces fardeaux et ces dettes, bien sûr, il y a le nucléaire à l'heure actuelle qui représente un danger. Avec un nombre d'incidents à Golfech sur l'année passée qui est assez effrayant, avec un nombre d'arrêts inopinés qui est assez conséquent. Je crois qu'il y en a eu 3 juste depuis le début de l'année. Donc un arrêt, ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement, lequel, vu l'opacité du système,
ça peut être un arrêt,
nous ne savons
ça
pas.
Ça peut être un arrêt pour de la maintenance.
Ah non, là c'est un arrêt, c'est des arrêts automatiques, ce qui fait que la centrale a détecté qu'il y avait un problème. Pour le 19 octobre de 2016, nous savons ce que c'est. Il y a eu un certain pourcentage de matériel radioactif qui a été dégagé et qui venait du cœur du système de refroidissement principal, ce qui
dans votre projet, c'est le zéro nucléaire, monsieur Arnaud.
C'est une diminution progressive du nucléaire, parce que il faut être aussi réaliste. On ne peut pas arrêter le nucléaire du jour au lendemain. Mais voilà, nous appuyons sur des études sérieuses, qui, comme celle de Negawatt, qui montre que le zéro nucléaire d'ici 2050 est tout à fait possible. Le nucléaire aussi, c'est les déchets et les projets inutiles, comme celui de Bure, qui est discuté actuellement, qui consistera à enfouir des déchets nucléaires, et nous voyons le résultat aux États-Unis, où justement un centre d'enfouissement a eu une avarie dernièrement. Et quels que soient, on va dire, les députés que vous allez choisir dans le Tarn-et-Garonne, c'est vers ça qu'on va. À part, on peut donner, on va dire, le bénéfice du doute à France Insoumise, qui s'y est convertie récemment. Les dettes inutiles aussi, c'est parce qu'on parlait d'économie tout à l'heure, c'est vrai que j'en ai pas forcément parlé, mais c'est les projets inutiles. Il y a le LGV, par exemple, sur le Tarn-et-Garonne. Alors, est-ce qu'il vaut mieux dépenser 9 milliards d'euros pour faire 3 heures une, et pour que en fait l'usager montalbanais, parce que ce n'est pas un client, hein, c'est un usager, quand on utilise la SNCF, c'est un service public, donc il ne faut pas se tromper dans les mots. Donc est-ce que l'usager va devenir une vache, entre guillemets, et voir passer les trains, ou est-ce que ça va être réellement un usager à qui on va donner la chance de pouvoir prendre le train à Montauban? Et ça, finalement, une vache pour 9 milliards, parce qu'il va les voir passer, pour qu'un Toulousain puisse aller en 3 heures à Toulouse, ou est-ce que c'est un usager pour 2 milliards et on conserve la gare de Montauban et on réaménage la ligne existante et donc l'usager peut prendre le train. Voilà des choix clairs sur lesquels on s'est aussi positionné et sur lesquels Benoît Hamon a porté, que nous portons au Conseil régional et quand je vois aussi...
Pourquoi ne vous êtes pas allié, vous parlez systématiquement de Benoît Hamon depuis vos interventions, est-ce que vous regrettez de ne pas avoir participé à une coalition avec Valérie Rabault par exemple, du Parti Socialiste?
Avec Valérie Rabault, nous aurions pu l'envisager, mais comme je vous le fais remarquer, dans le programme socialiste, il n'y a plus l'abandon du nucléaire, il n'y a plus l'abandon de Bure, il n'y a plus le revenu universel dont on parlait tout à l'heure, donc des mesures phares du programme d'Hamon ont disparu. Par contre, le 1er juillet, Benoît Hamon avec Yannick Jadot, les personnes qui ont fait, on va dire, renouveler le dialogue entre nos deux partis politiques, le 1er juillet lance quelque chose. Je serai un des premiers observateurs, voire même participant à ce mouvement, et j'espère que je ne serai pas seul et qu'il y aura plein de personnes qui nous rejoindront pour faire avancer l'écologie, mais dans une Europe au sein de l'Europe. Voilà.
Merci Guillaume Arnaud. Tout de suite les infos de 18h30 sur CFM Radio. On se retrouve tout de suite après.
CFM. Après les infos, retrouvez À qui le tour avec votre épicerie Coxibio à Haussonne-Montauban. Coxibio, proche du bio, proche de vous.
Info. CFM. Les infos.
Bonsoir. À la une ce soir, la mort d'un troisième Français dans l'attentat de Londres, confirmé. En marche, bien placé dans les sondages à quelques jours des législatives en France, sachant que les ministres candidats jouent gros. Et puis le tennis à Roland-Garros, Caroline Garcia sort la tête haute du tournoi parisien. Emmanuel Macron l'a annoncé en personne. Un autre Français a trouvé la mort lors de l'attaque terroriste sur la capitale britannique samedi soir. Il s'agit de Xavier Thomas, 45 ans, père de famille, et formellement identifié par la police britannique. Son corps a été repêché dans la Tamise. Il devient la 8e personne décédée dans l'attentat de Londres et le 3e Français après Alexandre Pijard, 27 ans, et Sébastien Bélanger, 36 ans. Londres, Paris ou Manchester, autant de villes marquées par le terrorisme, mais qui restent geste solidaire et connecté quand il s'agit de rendre hommage aux victimes. Ce soir, c'est en toute sobriété que la pop star Ariana Grande vient se produire à Paris à l'Accor Hotel Arena. Un concert, Boris Karlamov, sous haute sécurité.
Il va falloir montrer patte blanche pour accéder à l'Accor Hotel Arena de Bercy. Le secteur est entièrement bouclé par la police. La circulation est interdite tout autour de la salle de concert. Des dispositifs de préfiltrage des spectateurs sont assurés par des agents de sécurité ainsi que par des policiers. Il faut savoir que ce soir, les sacs à dos sont interdits à l'intérieur de la salle de concert. Des patrouilles dynamiques ont tenu comme en civil arpentent les zones d'attente du public. Le réseau des transports en commun desservant la salle de concert est également sous très haute surveillance. Au total, ce sont 20 000 personnes qui sont attendues ici à Bercy pour le concert d'Ariana Grande.
Merci Boris, vous êtes devant l'Accor Hotel Arena de Paris à quelques heures du concert d'Ariana Grande où des centaines de fans se massent déjà. Et ce concert un peu particulier se déroule aussi au lendemain de l'attaque du parvis de Notre-Dame. Hier à Paris, les policiers ont découvert au domicile de l'assaillant une vidéo dans laquelle il prête allégeance au groupe djihadiste État islamique. Le suspect, hospitalisé actuellement en état d'urgence absolue, est en garde à vue. Le policier agressé à coups de marteau, lui, a été légèrement blessé. Un double attentat également revendiqué par Daesh à Téhéran. Aujourd'hui, des hommes armés et des kamikazes ont pris d'assaut le Parlement et le mausolée de Khomeini en Iran. Bilan, 12 morts et au moins 39 blessés. Face au terrorisme, justement, la Task Force a été créée en France et elle a son nouveau patron. Elle sera dirigée par l'ancien responsable des renseignements intérieurs, Pierre de Bousquet de Florian. Il prendra donc la tête de ce nouveau centre, un centre de coordination des services engagés dans la lutte contre le terrorisme et dont la création a été validée ce matin en Conseil des ministres. Édouard Philippe le clame aujourd'hui en une du Parisien. Il veut une majorité stable et puissante. À 4 jours des législatives, les sondages vont dans son sens. D'après la dernière enquête Odoxa, le gouvernement d'Emmanuel Macron disposerait d'une majorité absolue entre 350 et 390 sièges à l'Assemblée nationale. Pour autant, certains de ses ministres sont potentiellement en danger. Ils sont 6 à se présenter. Et en cas de défaite, on le rappelle, Mathieu Bélisario, ils devront quitter le gouvernement.
Et c'est le cas de Bruno Le Maire. D'abord, venu de la droite, le ministre de l'économie joue sa place à Bercy. Il vise un troisième mandat de député dans la première circonscription de l'Eure. Et même s'il est intéressé à brouiller les cartes entre sa défaite aux primaires de droite et son entrée au gouvernement, il reste en bonne position pour l'emporter. Pour lui, les législatives feront office de juge de paix. Richard Ferrand, empêtré dans les affaires. Une victoire dans la 6e circonscription du Finistère pourrait le conforter à son poste, en attendant évidemment les suites judiciaires. Enfin, c'est l'un des nouveaux visages de l'équipe Macron, Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement, n'aura pas forcément la partie facile dans la 2e circonscription des Alpes de Haute-Provence. Et même s'il est le député sortant, il aura pour mission de ne pas être sorti.
Le prélèvement à la source aura bien lieu, mais pas tout de suite. Voilà en substance ce qu'a également annoncé le gouvernement aujourd'hui. Les expérimentations vont d'abord être mises en place, après quoi la réforme des impôts devrait bel et bien être appliquée d'ici un an minimum, d'après le Premier ministre. On passe au sport. Il n'y a plus de Français à Roland-Garros. Caroline Garcia, la dernière représentante du tennis tricolore, a été éliminée en 2-7 par la Tchèque Karolina Pliskova. Une déception qui ne gâche en rien le parcours de la Française. Son tournoi est réussi, puisque que Caroline Garcia a atteint pour la première fois de sa carrière, Christophe Miedouger, les quarts de finale d'un grand chelem.
Oui, et pour en arriver là, la jeune Française âgée de 23 ans a beaucoup travaillé, comme elle aime à le rappeler, mais elle a aussi fait des choix qui payent visiblement. Elle annonce par exemple qu'elle fera l'impasse sur la Fed Cup en début de saison pour se consacrer uniquement à sa propre saison en simple. Pas d'équipe de France donc, et ça fait grincer des dents au sein de l'équipe. Convoquée tout de même par Yannick Noah pour disputer le barrage face à l'Espagne en avril, elle annonce être blessée. Mladenovic, Parmentier et Cornet, ses copines, se fendent d'un lol sur leur compte Twitter. Ambiance. Pendant ce temps, Caroline Garcia travaille dans l'ombre avec son père entraîneur et ça paye puisqu'elle vient de réussir un parcours plus que prometteur à Roland-Garros.
Parmi les autres résultats marquants du jour, les qualifications de Rafael Nadal et de Dominic Thiem, l'Autrichien qui s'est offert Novak Djokovic en 3-7 aujourd'hui. Sur le court, en ce moment, les matchs Murray, Nishikori et Wawrinka, Cilic. Excellente fin de journée à vous.
CFM. CFM.
À qui le tour, émission spéciale législative 2017. Nous sommes toujours sur la première circonscription du Tarn-et-Garonne. À toi, Kader.
Oui, première circonscription et acte 2 après l'émission d'hier. Nous sommes donc en studio pour aborder le dernier chapitre de notre débat avant la carte blanche qui vous sera donnée, mesdames et messieurs, sur la sécurité. Vous l'avez lu, vous l'avez vu, entendu, malheureusement, les actes terroristes se répètent à Londres, Manchester, hier très récemment à Paris. Vous députés, que souhaiteriez-vous faire? Est-ce que vous pensez que les mesures de sécurité actuelle mise en place par en France, l'état d'urgence, etc., sont de nature à rendre, en tout cas, ou à essayer de juguler ce phénomène dramatique? Guillaume Arnaud, si vous permettez.
Oui, donc pour ma part, ce qu'il y a, c'est déjà la première chose, c'est l'état d'urgence. Je trouve que actuellement, vivre dans l'état d'urgence, avoir voté même dans l'état d'urgence et perdurer dans l'état d'urgence depuis tant de mois, voire même plus d'un an, montre que, on va dire, cette solution n'est pas la bonne. Donc il faudra bien en sortir, et j'espère le plus rapidement possible. En plus, les premiers attentats de Paris ont eu lieu juste après une loi qui était la loi sur l'informatique, sur les libertés informatiques, qui prenait, on va dire, un certain flicage de chacun, de tout un chacun, sur les moyens informatiques mis en place. Donc, sur ça, moi, je suis informaticien et je trouve que c'est regrettable, on va dire, parce que ça nuit aux libertés de chacun. Ce que on peut proposer, c'est ce qu'on a pu entendre en début d'émission, c'est recréer, on va dire, du lien de confiance et du lien social qui permettait un certain renseignement au sein des banlieues et des zones, on va dire, sur lesquelles, on va dire, maintenant, on ne peut plus avoir de renseignement parce qu'il n'y a plus de contact. C'est avec la fameuse police de proximité qui a été enlevée par Monsieur Sarkozy. Voilà. Donc après, moi, quand on parle d'état d'urgence aussi, j'ai la chance de pas mal voyager, et je suis un Européen convaincu, donc j'ai pu aller depuis l'état d'urgence à Strasbourg, à Bruxelles, à Berlin et dans d'autres pays d'Europe. Et quand je passe à Toulouse et que je passe à un poste frontière, ça me rend malade. Parce que pour moi, je suis en Europe, et que je vienne de Paris, de Strasbourg ou de Bruxelles, de Madrid ou de Berlin, je suis en Europe, je suis un Européen, et il ne faudrait pas que je passe à ce poste frontière. Donc actuellement, à l'aéroport de Toulouse-Blagnac, je ne sais pas si c'est le cas, mais c'était le cas en mars, quand on venait d'un pays européen, on passait à ce poste frontière. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas possible ou qui n'est plus possible. Donc pour moi, il faut rétablir Schengen complètement, parce que chaque citoyen doit demeurer libre de circuler dans l'espace européen comme il le souhaite. Ensuite, la dernière chose, c'est que pour que cet espace Schengen aussi soit accepté de nos concitoyens, il faut donner aux pays frontaliers, l'Italie, la Grèce, l'Espagne, les moyens de faire de la politique aux frontières. Parce qu'actuellement, on leur délègue ça gentiment, en leur disant « c'est vous qui avez la frontière », et puis on regarde ça gentiment. Mais ce qu'il y a, ce n'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Il faut qu'il y ait une vraie politique européenne dans ce sens-là, qui nous permette d'accueillir les gens dans des conditions décentes, pour que, on va dire aussi, il n'y ait pas de problème d'insécurité, parce que malheureusement aussi, la difficulté de rentrer en Europe fait qu'il y a ce problème d'insécurité aussi chronique. Si on le rendait le chemin plus facile, si on les acceptait, ça serait beaucoup plus facile, on va dire, beaucoup moins. Je ne sais pas comment dire la chose, mais vous avez compris l'idée.
Oui. Martine Medos, vous n'avez pas l'air d'accord avec Guillaume Arnaud.
Alors, en disant que de laisser la libre liberté au niveau du passage des frontières, c'est de là que vient le danger. Parce que justement, vous avez bien vu, les attentats que nous avons eus sur Paris, qu'il y a eu sur Manchester, qu'il y a eu en Allemagne, c'était quand même des personnes qui passaient allègrement la frontière, et qui venaient de la Syrie, qui venaient de l'Irak, et j'en passe d'autres pays. Alors, quelque part, pour la sécurité, pour notre sécurité, je pense que tout pays européen doit retrouver sa frontière. Sa frontière, ça ne veut pas dire d'interdire aux personnes de passer. Absolument pas. Mais un passage contrôlé. Et je pense que, et d'ailleurs, on est, nous, en tant que Debout la France, pour la fermeture des frontières. Pour avoir le contrôle et permettre aux personnes, et être sécurisées. C'est tout simplement ça. Et puis, en fin de compte, les fichiers S, comme on le préconise, ne pas dire oui, on les surveille, etc. On sait que nos policiers n'ont pas les moyens de surveiller tout le monde. Donc les fichiers S, pour moi, ils devraient être expulsés.
Oui, mais sauf que les fichiers S, il y a aussi les certains militants écologistes, nous le savons très bien, qui sont fichiers S et donc qui ont été assignés à résidence dès le début de l'état d'urgence. Et donc ces personnes-là, faire ? Et ensuite les renvoyer chez eux. La plupart sont français et sont très bien, et on va dire, sont nés en France.
La majorité
français,
des fichiers
etc.
S, quand même, ce sont des personnes qui sont parties dans les pays, on cite la Syrie parce qu'actuellement c'est d'actualité, qui sont parties à Daesh et qui reviennent. On sait pertinemment que ces gens-là restent dormants pendant des mois, voire des semaines, et qu'au moment où ils ont l'ordre de Daesh, entre guillemets, parce que je suis pas certaine que ce soit tout le temps Daesh, mais que Daesh donne l'ordre d'aller attaquer ou de faire sauter des bombes, etc., etc., je suis persuadée que de toute manière, ils attendent. Ce sont des gens qui sont à l'affût, qui sont intégrés, parce que ces gens-là, vous les entendez pas, c'est vrai.
Mais après, au contraire de vous, je considère que ce n'est pas Daesh qui va donner un ordre ou quoi, que actuellement, oui, vu la publicité qui est faite sur les personnes qui font des actes terroristes,
La plupart du temps, c'est toujours des personnes étrangères. Vous n'avez qu'à constater.
D'accord. On va avancer. Richard Blanco, je vous donne la parole sur ce thème.
Ce sujet, oui. Alors, oui, on ne peut être que choqué par les attentats terroristes, mais aussi par la menace qu'ils représentent. Et nous n'avons évidemment aucune solidarité avec ces actes barbares. Mais répondre à ces actes en renforçant les moyens de sécurité n'y changeront rien. Augmenter les effectifs de police, donner la possibilité aux forces de l'ordre d'utiliser leurs armes, tout cela est vain. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, pour voir que cela n'empêche en rien des fous de vouloir tirer dans le tas, dans des écoles par exemple. Alors je finis, je vais vous le dire. Les discours sécuritaires, ils n'ont qu'une vocation, nous enfumer. Nous faire croire que notre État se préoccupe de nos vies. Car si tel était le cas, cela se saurait. Et les forces de l'ordre, l'état d'urgence, sont souvent plus utilisées pour empêcher les manifestations de travailleurs. Alors, concernant le terrorisme, il faut en comprendre la genèse. Et moi, en 1991, je manifestais contre l'intervention française en Irak, qui s'était faite au nom de la démocratie contre la dictature de Saddam Hussein, qu'on présentait comme un Hitler. Et plus de 25 ans après, c'est quoi le résultat dans cette partie du monde? C'est le chaos généralisé, dans lequel prospèrent des bandes fanatiques. Les droits humains ont tellement reculé dans cette région, mais bien dans d'autres, comme en Afghanistan ou en Libye, que les populations sont presque à regretter leurs anciens dictateurs. Alors, une première chose à faire, de bon sens, serait de retirer toutes les troupes françaises sur ces différents théâtres militaires. Et ce qui est sûr, c'est que ces attentats, ce sont le fruit pourri des guerres que notre propre État mène dans les quatre coins du monde, que ce soit en Centrafrique ou en Syrie. Et ces interventions n'ont rien à voir avec la lutte contre le terrorisme ou pour le droit des femmes. Notre État, avec son armée, intervient dans l'intérêt des grands groupes capitalistes pour s'assurer l'approvisionnement des matières premières, mais aussi pour s'assurer ce qu'ils appellent des stabilités géopolitiques. Je finis juste là-dessus. Et des jeux d'influence avec leurs concurrents des autres pays. Parce que quand même, dans ces jeux d'influence, c'est quand même l'hypocrisie la plus abjecte qui règne dans tous ces calculs. On sait que le financement de l'État islamique, de Daesh, est assuré indirectement par l'Arabie Saoudite et le Qatar. Mais les affaires sont les affaires. Et notre État, il entretient de bons rapports avec ces États pour vendre des armes, des avions, des voitures, pour écouler toutes nos marchandises suées par les travailleurs.
Ne relancez pas, Martin Bodos. Merci, Richard Blanco, pour votre intervention sur ce thème-là. Avec sa salle, oui. C'est à vous.
Effectivement, on ne peut pas se réjouir de ces actes terroristes, mais nous, à l'UPR, on pense que il faut s'attaquer d'abord aux causes, pas d'abord, mais aussi aux causes et non pas que aux conséquences. Et nous proposons de sortir de l'OTAN parce que elle nous entraîne dans des guerres illégales, effectivement. Tous ces pays ont été complètement déstabilisés, etc. depuis des années, et donc il faut absolument stopper ça pour retrouver un équilibre et plutôt favoriser la diplomatie avec les pays du monde que de partir en guerre. Et puis je pense que chaque État doit disposer de lui-même.
Saint-Dié-Rivière, sur ce sujet-là aussi, vous serez la dernière à intervenir sur ce sujet, avant de passer à carte blanche.
Ouais, c'est la préoccupation numéro un des Français, mais pour moi, la sécurité, c'est aussi au quotidien. La sécurité alimentaire, la sécurité pour les femmes. Rappelons qu'une femme, tous les 3 jours, meurt sous les coups de leur mari ou de leur conjoint. La sécurité environnementale, avec Golfech à nos portes, c'est aussi un enjeu de sécurité. Et moi, je suis pour la paix.
Vous êtes pour la paix, Saint-Dié-Rivière. Alors, vous avez terminé?
Oui.
Alors, je vous propose à tous de passer à la dernière étape de notre émission sur la carte blanche qui vous est proposée. Vous pouvez dire ce que vous souhaitez, bien sûr. Vous avez une minute à peu près pour vous exprimer. Guillaume Arnaud, je vous passe le micro. C'est à vous de débuter cette dernière séquence.
Alors là, sur une carte blanche, c'est assez dur de trouver par quoi commencer. Vous aurez compris que le 11 juin, vous avez l'opportunité, comme vous pourrez le lire sur ma profession de foi, de voter pour. Et j'espère que vous en prendrez le droit et d'arrêter de voter contre ou de voter utile. Vous pourrez voter pour qu'il n'y ait pas de projet inutile, pour donner à votre région et à vos collectivités qui vous sont proches et qui vous rapprochent de la démocratie de gouverner avec une fiscalité locale qui soit raisonnée. Vous pourrez voter aussi pour conserver une gare à Montauban et avec un TGV qui s'arrêtera à Montauban. Pour espérer, alors là par contre malheureusement vu que le service public est déjà détruit, qu'un train de nuit revienne à Caussade. Parce que malheureusement ce que je promets pour, on va dire, avec la LGV pour Montauban est déjà malheureusement le cas à Caussade avec un train qui ne s'arrête plus la nuit pour monter à Paris. Vous pourrez voter pour les 32 heures et aussi la décence pour que les personnes puissent travailler et aussi pour une agriculture, bien sûr, j'en ai pas parlé, bio et locale, comme nous l'avons toujours prôné, et voilà.
Merci, Guillaume Arnaud. Richard Blanco, c'est à vous.
Alors, ma carte blanche, je vais l'utiliser pour parler de la montée des idées réactionnaires dans notre société, dont on vient d'avoir une petite illustration dans ce débat. Quand je parle de montée des idées réactionnaires, j'entends par là les idées nationalistes, chauvines, protectionnistes, xénophobes. La montée de ces idées, elle s'illustre bien évidemment par la poussée du vote Front National aux élections présidentielles, mais pas uniquement. Et le terreau sur lequel poussent ces idées, c'est bien évidemment la montée du chômage et de la misère dont est avant tout responsable le grand patronat et les gouvernements successifs à son service. Alors cette colère légitime de ceux qui ont perdu leur emploi ou qui ont peur de le perdre est détournée par des partis politiques qui nous font croire que si on ne trouve plus de boulot, c'est à cause de la concurrence des pays étrangers et voire même des étrangers tout court. Le nationalisme, la xénophobie, le protectionnisme sont des pièges mortels pour les travailleurs. Et y tomber, c'est faire le jeu de la division entre les travailleurs. Oui, il nous faudra nous mettre en lutte pour préserver nos conditions de vie. Mais nos ennemis, ce ne sont pas les travailleurs étrangers qui travaillent ici ou bien les travailleurs des autres pays. Les uns comme les autres sont nos frères de classe. Il faut que, face à la division créée artificiellement, nous imposions la solidarité entre les travailleurs à l'échelle de la planète. Il nous faut relever le drapeau rouge des luttes sociales, celui de l'internationalisme. Cela pourra, on pourra aussi le dire en votant pour les candidats lutte ouvrière à ces élections. Et je finis juste pour inviter vos auditeurs à une réunion publique que l'on organise à 19h30 à la Maison du Peuple.
Merci pour la publicité. Martine Baudos, votre carte blanche.
Alors, moi je profite parce que je n'ai pas donné donc mes priorités que je donnerai donc pour ma candidature de député.
Je vous en prie, allez-y.
À savoir, donc, on avait parlé tout à l'heure de l'Europe. Alors, je reviens sur le fait que je souhaite une Europe au service de la population et non une Europe dirigée par les technocrates, au service du capital. Lobbying, en l'occurrence. La suppression de la directive des travailleurs et défendre surtout notre savoir, c'est-à-dire nos produits de terroir qui sont si importants pour notre département. Alors, donc, essentiellement l'agriculture, bien sûr, et harmoniser les règles européennes à ne pas pénaliser nos agriculteurs en imposant des règles restrictives. Et je parle de la fraise, puisque c'est la fraise actuellement. Il faut savoir que les fraises espagnoles interdites de production en France pour usage de produits chimiques ou prohibés sont vendues chez nous sur les étalages des grandes surfaces avant même que la production, notre production, soit commercialisable. Donc dernièrement, il faut savoir aussi qu'il y a eu, tout dernièrement, je crois il y a quelques jours, 50 tonnes d'abricots qui ont été jetées au motif que les centrales d'achat des grands établissements de distribution ont refusé de payer le prix demandé, à peine supérieur au coût de revient. Donc je vais défendre surtout aussi donc l'Europe et notre agriculture dans le département. Et donc je dirais pour conclure que je demanderai aux citoyens de prendre le temps de lire les programmes qui vont vous être envoyés, le programme des uns et des autres qui se trouve ici autour de notre table, et surtout ne pas donner le pouvoir au président en place les 11 et 18 juin. Pensez surtout au niveau des abstentionnistes, pensez qu'il y a de bonnes raisons de voter. Pour autant, c'est l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants qui est l'enjeu. Il serait bon que vous en preniez conscience. Nous sommes, et je suis, Debout la France, servir sans vous servir.
Merci Martine Baudos. Sandy Rivière, le mot de la fin pour vous.
La femme n'est pas le complément de l'homme, elle est son égale. 100% des femmes se sentent en insécurité dans l'espace public ou transport en commun. Nous exigeons une sécurisation de ces espaces. Une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint ou son mari. Les femmes doivent pouvoir rester chez elles en sécurité. Nous exigeons la reconnaissance de ces féminicides, des peines exemplaires et immédiates, des solutions de prévention actives. La prostitution, la GPA, la publicité sexiste sur des actes de monétisation des corps des femmes. Nous exigeons de l'esclavagisme des femmes cesse. Unis pour les législatives, les candidates de la France à des ailes vous invitent à les suivre et à les soutenir et regarder le site Rassemblement Éco-Citoyen Masse.
Merci Sandy Rivière. Alexia Salgue, vous serez donc la dernière à prendre la parole.
Voilà, donc ma carte blanche, nous à l'UPR, nous défendons la démocratie, la liberté, l'égalité. Et l'UPR n'est pas un parti nationaliste, europhobe. C'est simplement retrouver son indépendance. C'est pas parce qu'on aime son pays qu'on déteste celui des autres. En fait, l'UPR, c'est une ouverture vers le monde, vers tout le monde, sans exception. On n'est absolument pas contre les coopérations entre différentes nations. Il suffit qu'elles soient que les échanges soient justes. Et voilà. Et donc, je trouvais ça important de le dire. Ensuite, c'est aussi se battre contre le démantèlement des services publics. Aujourd'hui, quand on lit les GOP, on se rend compte que tout ça est en train de partir en déliquescence, puisque c'est les services publics qui assurent l'égalité entre les Français. C'est développer aussi la culture, l'éducation populaire, donner à tous la chance de comprendre le monde. Privilégier une société de l'être et non de l'avoir. Et donc mettre l'humain au cœur des débats et non la finance. Voilà. Et donc ce serait me battre contre un nationalisme européen, parce que finalement les frontières on les met où en ce moment?
Merci.
Voilà.
Merci Alexia Salg, merci à tous les cinq d'avoir accepté cette invitation pour cet exercice qui n'était pas si facile aussi à assumer. Merci donc d'avoir participé à ce débat. Je vous donne rendez-vous demain, jeudi 8 juin à partir de 17h pour les deux derniers débats pour de nouveaux rendez-vous consacrés aux élections législatives des 11 et 18 juin prochains, consacrés cela à la seconde circonscription de Tarn-et-Garonne. Merci à tous pour votre fidélité. À demain.
Merci Kader, à demain. Merci Kader, à demain. Merci Kader, à demain. Merci Kader, à demain. Merci Kader, à demain. Merci Kader, à demain. Merci Kader, à demain. Merci Kader, à demain. Merci Kader, à demain. Merci Kader, à demain. Merci Kader, à demain. Merci Kader, à demain. Merci Kader, à demain. Merci Kader, à demain. Merci Kader, à demain. Merci Kader, à demain. Merci Kader, à demain.